Et à midi, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter ce magazine estival. Aujourd'hui, on va parler de la bourse Fondation en vue avec Michel Poulain, qui est le directeur général de cette fondation. Également à l'émission aujourd'hui, Isabelle Ducharme, qui est présidente du conseil d'administration de Kéroul, au sujet des publications de tourisme accessible de cet organisme et du travail que ça a réclamé et du pourquoi, du comment, Isabelle va tout nous dire. Une jeune femme qui est stagiaire en communication et philanthropie à Inca Québec. Elle sera là en lieu et place de Sarah Rouleau. Elle s'appelle Cindy Kenny. Elle nous parlera aujourd'hui du début de l'âge adulte à travers la perte de vision. Et puis, à la toute fin de l'émission, je retrouverai avec grand plaisir ici en studio Franck Bouchard, notre chroniqueur volant qui se balade à droite et à gauche, et aujourd'hui il est allé à Vaudreuil-Dorion pour nous présenter l'organisme Zèbre Rouge qui œuvre auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale et ses gens font dans la réparation et le recyclage de vélos. Voilà tout un programme. Restez des nôtres, c'est Clotilde Seille sur Canal M et c'est l'émission Aime l'été. Alors, plus qu'un simple coureur, parlons du guide pour aveugles. C'est un texte d'Alex Tourille, paru dans athlétismequebec.ca, afin de rendre la pratique de la course à pied accessible à tous, des personnes donnent de leur temps dans le but de permettre aux aveugles de pouvoir vivre leur passion. Vincent Liberali est l'un de ces guides pour coureurs aveugles. À 50 ans, ce sportif s'est lancé dans l'accompagnement de coureurs aveugles après avoir lu un article portant sur ces guides. Il s'est alors dirigé vers l'ASAC, l'Association sportive des aveugles du Québec, afin d'obtenir des informations et de proposer son aide. Cette possibilité de pouvoir accompagner un coureur aveugle était pour lui le parfait compromis entre sa passion pour la course à pied et l'entraide avec ce bénévolat. C'est alors qu'il y a 5 ans, il a rencontré Nathalie Chartrand, directrice générale de la SAC et coureuse aveugle, qui lui permettra d'apprendre les fondamentaux du rôle de guide pour aveugle. Je précise que Mme Chartrand, d'ailleurs, est attendue dans ce studio pour une voire deux chroniques prochainement. Elle pourra d'ailleurs nous parler de son expérience de coureuse. Être guide pour coureurs aveugles, c'est une mission très complexe, nécessitant une grande capacité d'écoute et de compréhension. Le rôle du guide est d'accompagner et de diriger la personne aveugle tout au long du parcours, en assurant avant tout sa sécurité. Le principe est simple à première vue, puisque le coureur aveugle tient par le coude le guide afin de pouvoir le suivre, mais si on s'y intéresse de plus près, cela est bien plus complexe. Le guide doit être à la fois à l'écoute du coureur, mais aussi communiquer les bonnes informations afin qu'il puisse anticiper ses gestes et son comportement. Le rôle de guide permet ainsi à ce dernier de pratiquer son sport de prédilection tout en venant en aide à une personne désireuse de vivre sa passion malgré le handicap. Cela lui permet également de s'entraîner parallèlement. Alors les guides pour coureurs sont fortement recherchés afin de pouvoir permettre la pratique de la course à pied pour tous. Alors si vous cherchez à aider votre prochain, n'hésitez pas à contacter Nathalie Chartrand de l'Association sportive des aveugles du Québec afin de proposer votre aide. Vous pouvez aller sur le site de la SAC, A-S-A-Q, ou encore vous pouvez composer le 514-252-3178, le poste 3768. L'immigration pour combler le manque de personnel, alors que plusieurs hôpitaux et CHSLD doivent composer avec une pénurie de préposés aux bénéficiaires. À Trois-Rivières, les autorités pensent que les nouveaux arrivants pourraient représenter une partie de la solution. Marguerite Moulobi est au Québec depuis à peine 2 ans. Elle a été embauchée comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées de Trois-Rivières. « C'est exigeant, mais j'ai bien aimé. Alors j'ai choisi ce métier », raconte-t-elle. Il faut dire qu'il manque plus de 150 préposés en Mauricie et au centre du Québec. Les immigrants sont-ils une partie de la solution à cette pénurie? C'était nouveau quand je suis arrivée il y a 4 ans et maintenant on a beaucoup d'employés qui viennent d'autres pays, explique Manon de Montigny, directrice de la résidence Jean 23. À la résidence, on ouvre grand les bras aux nouveaux arrivants. C'est un plus pour nos résidents et pour nos employés, ajoute-t-elle. Pour y arriver, une reconnaissance des acquis et des compétences est parfois nécessaire. Ça permet aux nouveaux arrivants d'être embauchés dans les hôpitaux et les centres d'hébergement tout en complétant leur formation. On a reçu des candidatures de nouveaux arrivants et certains ont été embauchés et vont commencer en septembre, précise Louis Brunel, directeur des ressources humaines au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Marguerite Moulobi croit qu'il s'agit d'une belle façon de s'intégrer. 75 personnes ont posé leur candidature pour le programme de reconnaissance des acquis. 16 ont déjà été embauchées. Parmi celles-ci, quelques travailleurs fraîchement arrivés chez nous. La ville de Montréal effectuera des travaux d'accessibilité universelle dans 2 piscines. Elle annonce, la ville de Montréal, l'octroi de contrats pour la mise en œuvre de projets d'accessibilité universelle dans la piscine Le Bain-l'Évêque, située dans l'arrondissement du Mont-Royal, et le Natatorium de Verdun, situé dans l'arrondissement de Verdun, qui ont été donc retenus dans le cadre de cette démarche annuelle effectuée auprès de 19 arrondissements afin de présenter des bâtiments municipaux nécessitant des travaux d'amélioration reliés à l'accessibilité universelle. Plus spécifiquement, les travaux viseront, entre autres, à permettre des correctifs aux chemins d'accès extérieurs, aux vestiaires, aux salles de toilette et à la signalisation intérieure et extérieure. On procédera à l'installation d'ouvre-portes automatiques, bien évidemment. Évidemment, on pense d'abord et avant tout à la sécurité et à la facilité d'accessibilité des lieux des personnes âgées ou encore des personnes handicapées. Le Premier ministre John Horgan a annoncé vendredi la création d'une nouvelle commission des droits de la personne en Colombie-Britannique. Il dit vouloir favoriser le respect des droits humains. Pour le Premier ministre, c'est un nouveau départ. Il souhaite offrir aux habitants de la province un organisme qui s'assure que tous soient traités avec dignité et respect. Nous voulons une commission des droits de la personne qui va combattre la discrimination, informer les citoyens et élimine tant les barrières systémiques que les inégalités. Actuellement, la Colombie-Britannique est la seule province sans commission. Et puis enfin, des chaises roulantes autonomes dans les aéroports japonais. L'aéroport de Tokyo-Haneda travaille actuellement sur plusieurs moyens de rendre ses infrastructures encore plus accessibles aux voyageurs du globe. Le complexe Nippon s'est notamment associé à Panasonic pour rendre la traversée de l'aéroport plus facile aux personnes à mobilité réduite. De cette collaboration est née Wheel Next, une chaise roulante capable de se déplacer sans l'aide de l'homme grâce à un système autonome. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, une fois assis, le voyageur renseigne le lieu où il souhaite se rendre, porte d'embarquement, zone de retrait des bagages, etc., via une application pour smartphone. La chaise calcule ensuite le parcours le plus rapide et se déplace automatiquement jusqu'à la destination. Panasonic a également développé pour l'aéroport international de Tokyo-Haneda un nouveau système d'annonce verbale, mieux perceptible par les voyageurs et notamment ceux qui sont touchés par des problèmes de vision ou des problèmes auditifs. Bonjour Monsieur Poulain, Michel. Comment
Bonjour.
Allez-vous? Ça va bien?
Ça va très bien, très bien. En cette journée où enfin l'été se laisse tirer du nez, je dirais.
Oui, mais bon, allez. Ça, on est quand même pas si mal loti par rapport à d'autres. C'est toujours ce que je me dis. Hein. Monsieur
voilà.
Michel Poulain, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Ambu, que les auditeurs ici vous connaissent bien. Hein, parce que vous avez animé une émission ici même. Hein?
Oui, ça a été un grand bonheur que de faire cette série avec des gens qui sont en déficience visuelle et qui se racontent. Alors, la série est maintenant terminée, mais ça fut une expérience extraordinaire.
Eh bien, je suis très, très content. Nous en sommes tous contents pour vous, M. Poulain. Je voudrais que maintenant on parle de ces bourses d'études 2017 de la Fondation En Vue. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de la Fondation En Vue.
Bien, tout d'abord, la Fondation à vue est rattachée directement à l'Institut Nazareth et Louis Braille et notre mission est de supporter la recherche, supporter également des programmes, de donner un coup de main sur certains éléments, entre autres les livres du haut média que les gens peuvent utiliser. Donc, on finance beaucoup de programmes. On a financé depuis la création de la Fondation près de 8 millions de dollars en toutes sortes de projets reliés à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, le travail se poursuit. Les nouvelles technologies font en sorte que la recherche s'accélère également. Alors, on est toujours très axé sur l'autonomie des personnes en déficience visuelle. Et le programme de bourse, justement, vous savez que l'éducation, l'autonomie passe par l'éducation et nos donateurs l'ont très bien compris. Alors, on a créé. Ce programme existait depuis plusieurs années, mais nous avons bonifié le programme avec des bourses beaucoup plus importantes et avons également étendu le programme de bourse au niveau secondaire pour les diplômes d'études professionnelles, ce qui n'existait pas auparavant. Alors ça, c'est une nouveauté et les gens peuvent s'inscrire pour obtenir ces bourses-là pour leur permettre de poursuivre des études et d'aller chercher des certificats qui vont leur permettre une autonomie et un travail.
Bien sûr. Alors, quel est le montant auquel ils peuvent aspirer,
Alors,
monsieur?
dans le programme qu'on a installé cette année, on parle de bourses, de 6 bourses de 1 000 $ au niveau du programme d'éducation aux adultes ou le DEP. On aura 2 boursiers au niveau collégial, ce sont des bourses de 2 000 $ chacune, et également 2 boursiers au niveau universitaire, ce sont des bourses individuelles de 5 000 $. Les gens, bien sûr, il y a des critères pour s'inscrire à cela,
J'imagine.
mais l'objectif, c'est d'encourager les personnes ayant une déficience visuelle à intégrer et poursuivre des études, aider aussi les étudiants à faire face à des coûts additionnels inhérents au
Oui, bien
programme de
sûr, bien
formation.
sûr.
Donc, les conditions, bien, les gens doivent avoir reçu des services de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ça, c'est le premier élément. La personne doit être, bien entendu, aussi étudiante à plein temps. Et il y a d'autres éléments que les gens peuvent consulter sur le site Internet de la Fondation, à fondationenvue.org, et les formulaires et les informations sont également en format adapté.
Est-ce que
Donc,
vous avez l'impression, Monsieur Poulain, on va revenir, ne vous inquiétez pas sur toutes les informations pour les formulaires d'inscription adaptés et tout ça, mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes non-voyants, que certains s'empêchent encore d'aller étudier à cause de leur cécité?
Oui, et je vous dirais que c'est par ignorance. Donc, on a un devoir d'informer les gens, on a un devoir de faire la promotion de ça. On participe également avec la Chambre de commerce de Montréal à un programme avec Montréal Relève qui s'appelle Vision Carrière. Et cette année encore, une douzaine de jeunes étudiants, adolescents, ont fait des stages en entreprise. Donc, ce genre de démarche fait en sorte que on ouvre des horizons nouveaux, on encourage, on stimule également les jeunes. Et donc, moi, je vous dirais que c'est plus parce que les gens ne le savent pas qu'il existe ces programmes-là, mais
C'est par
pour
choix,
avoir
quoi.
oui, eh oui, puis pour, mais pour avoir côtoyé des gens, des étudiants qui sont en déficience visuelle et qui ont terminé leurs études, qui réussissent, c'est extraordinaire. Il y a des avocats, des notaires qui sont des gens qui ont une déficience visuelle, mais qui travaillent à plein temps et qui ont une participation sociale complète.
Donc, espérons que votre message puisse passer grandement. D'ailleurs, quels sont les moyens que vous avez à la Fondation pour vous faire connaître et pour connaître ces bourses d'études-là? J'imagine que les
Bien entendu, oui,
personnes.
bien entendu, les médias traditionnels sont des éléments importants, mais nous avons également à l'interne le personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille qui sont en lien avec les usagers,
Bien
qui
sûr.
participent et qui sont au fait de ça et qui font la promotion de ces programmes-là, de ces bourses-là auprès de leurs usagers. Et bien entendu, les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, LinkedIn, tous ces
Bien
éléments-là
sûr.
font en sorte qu'on assume une promotion. Mais je vous dirais que 70 70% des candidatures que nous recevons proviennent directement d'une intervention qui a été faite par l'entremise d'un membre du personnel de l'Institut
ah,
national
oui,
de Louis Braille, qui est en lien direct avec des usagers.
Oui, oui. Est-ce qu'on est capable de chiffrer, de mesurer le nombre d'étudiants non-voyants dans la population qui étudie maintenant à temps plein ou...
Je n'ai pas ces statistiques-là,
hein, mais
cependant, si on regarde le nombre de demandes de bourses que nous avons, il y a un bassin relativement important. Et là, ici, on parle de déficience partielle et totale.
Oui,
Et la déficience partielle, je vous dirais, qu'est en croissance actuellement sur la planète, mais dans la grande région de Montréal aussi. La déficience visuelle partielle est en croissance chez les jeunes. Et ça, c'est un élément qui fait en sorte que ces bourses-là peuvent être d'une très grande utilité pour des jeunes qui ont certaines difficultés. Et dans ce cadre-là, nous organisons d'ailleurs au mois d'octobre prochain une activité bénéfice qui est dédiée aux bourses d'études et on va remettre certaines bourses d'études lors de cet événement-là. C'est un événement bénéfice qui va se dérouler chez Porsche Laval, donc c'est un cocktail dînatoire et encore là, les détails sont sur notre site Internet. Et notre porte-parole de cette activité là est Dr. Evelyne Vinet. Dr. Vinet, elle est professeure adjointe à McGill, elle est clinicienne, elle est aussi chercheure et c'est une personne qui a une vision partielle.
Ah, oui,
elle a réussi toutes ses études de médecine malgré cette déficience visuelle partielle. Alors pour nous, c'est un exemple concret que les gens peuvent réussir, peuvent étudier et réaliser de grandes choses et avoir une participation sociale complète.
Alors, je vous l'avais promis, maintenant on va consacrer cette dernière minute au formulaire d'inscription. Comment faire pour déposer sa candidature?
Alors, vous allez sur fondationenvue.org et vous avez un lien qui va vous mener sur le programme de bourse de la Fondation dans lequel vous allez retrouver tous les détails, les objectifs, les conditions de mise en candidature et la façon dont tout ça va procéder. Le délai d'inscription est le 31 août prochain et à la suite de ça, très rapidement, il y a un comité de sélection qui se réunit pour faire la sélection et annoncer les boursiers très rapidement parce que la majorité, je vous dirais, s'inscrivent pour les sessions d'automne, particulièrement au niveau universitaire. Donc, les choses vont se faire très, très rapidement.
D'accord.
Et on a un objectif de faire le maximum.
Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Michel. J'imagine qu'au formulaire d'inscription, on vous réclamait certainement aussi une lettre de présentation.
Tout à fait. Absolument. Il y a des formulaires, une lettre de recommandation, une lettre de présentation.
Bon, d'accord.
Il y a une preuve de fréquentation de l'établissement et tout. Alors, tous les détails sont sur fondationenvue.org. Et je tiens à spécifier que tous ces formulaires-là sont adaptés également.
Merci beaucoup, Michel
Merci.
Poulain, directeur général de Fondation En Vue, et j'espère vous revoir bientôt.
Bon été. Merci,
Merci au Michel. Au revoir.
Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon. C'est l'accordéon qui s'est dit qu'il aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre. C'est-il vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'homme on a l'accordé, accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, 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 accordéon. L'aumône à l'accordéon. toujours par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon.
Et je vais maintenant m'adresser à Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Comment va la vie?
La vie va très bien, en direct du stade Unipri.
Hein? Non, vous n'êtes pas au tennis?
Oui, tout à fait. En fait, je vous avoue bien honnêtement que j'avais complètement oublié la chronique d'aujourd'hui. Alors, quand j'ai eu le rappel hier, j'ai fait « bon, pas de souci, je vais le faire, mais en direct du stade Unipri ».
Bon, alors, qui joue en ce moment? Vite fait, hein? vite, comme ça.
Présentement, je ne peux pas vous dire parce que je suis sortie à l'extérieur, mais à 2h30, le plus intéressant, c'est que ce sera Federer.
Ah! Bon, de toute façon, il va gagner. Alors, allez, 6-1, 6-0. Paf! Allez! Allez, parlons, parce que c'est important, le Québec pour tous, puisqu'il s'agit de cela hein, aujourd'hui.
Oui.
Les publications donc pour le tourisme accessible de Kéroul.
Voilà. Donc, comme vous le savez, je suis présidente de Kéroul, l'organisme non lucratif pour le développement touristique et culturel pour les personnes à capacité physique restreinte. Et donc, ça me fait toujours plaisir de vous revenir avec des informations, des fois qu'on oublie ou des fois qui sont nouvelles.
Mm-hmm.
Donc, on m'a demandé de parler des publications disponibles pour les gens, pour les aider à planifier leur sortie touristique.
Mm-hmm.
Donc, d'abord, peut-être les premières qu'on connaît, mais qu'on oublie un peu, le baladeur qui sort à tous les 3 mois. Et là, on a les nouveautés touristiques ici et ailleurs, ce que Kéroul fait, mais aussi des récits de voyage qui peuvent nous inspirer pour le futur.
Bien sûr.
Et dans l'autre publication qui existe quand même depuis un certain temps, c'est le Kéroul en bref, où là, on vous résume à au moins une fois par mois, des fois un peu plus, quand il y a des grosses nouvelles, on vous dit voici ce qui est arrivé, voici ce que Kéroul a fait ces derniers temps pour justement travailler à l'amélioration du contexte touristique local ici au Québec et parfois ce qu'on fait aussi à l'international. Et ce qui peut peut-être interpeller aussi les gens aujourd'hui qui commencent peut-être à en entendre parler, c'est que auparavant nous avions la route accessible. Maintenant, le produit s'appelle plutôt le Québec pour tous.
Mm-hmm.
Donc, on a élargi ce qui est inclus dedans. On ne met plus seulement ce qui est complètement accessible, mais on met aussi les endroits qui sont partiellement accessibles, donc qui ont peut-être des petites lacunes qui sont vraiment des bijoux touristiques à visiter. Et
oui.
À ce moment-là, on n'a qu'à aller voir pourquoi ils sont cotés partiellement accessibles et pour voir si nous, on peut y aller quand même.
Mm-hmm.
Une personne en fauteuil manuel, ça va lui importer beaucoup si c'est un zoo qui est tout en pente. Quelqu'un
bien sûr.
En fauteuil motorisé va
bien
dire
sûr.
Ben, moi, je peux y aller quand même. Donc, c'est une information importante à avoir avant de partir.
Mm.
Mais donc, le dernier magazine dont je voulais pas vous parler, s'il est lié directement au site web Le Québec pour tous, on en a ressorti ce qu'on a dit qui était en fait nos 100 coups de cœur.
Mm-hmm.
Déjà, on s'avance sur ce qui pour nous est autant un coup de cœur au niveau touristique, mais aussi un incontournable.
Mm-hmm.
Mais vous avez aussi des idées de thématiques en fonction de ce qui pourrait peut-être vous intéresser plus au niveau plein air, culturel.
Ouais.
Y a toute une section aussi sur ce qu'on peut faire comme activité qui est accessible en hiver.
Uh-huh.
Donc, c'est cette revue-là, c'est en fait les 3 revues. Vous pouvez appeler ou écrire chez Kéroul pour en obtenir une copie. Mais si vous devenez membre de Kéroul, donc pour un petit 25 $ par année qu'on réinvestit dans l'accessibilité, vous pouvez recevoir automatiquement toutes les nouvelles versions de ces revues-là chez vous, dans votre boîte de courriel.
D'accord. Et elles existent aussi sur le web?
Oui. Pour ce qui est du baladeur, par exemple, vous allez avoir les baladeurs des années passées qui vont avoir été mis en PDF sur le site web.
Mm-hmm.
Mais ceux de l'année en cours, c'est seulement les personnes qui sont membres et qui ont demandé de le recevoir à la maison qui ont la version là, actuelle.
D'accord.
Sinon, pour l'infolettre aussi, là, le Kéroul en bref, c'est possible de tout simplement aller inscrire votre courriel dans la page principale, dans le bas de la page de kéroul.qc.ca. Kéroul, c'est K-E-R-O-U-L. Donc, .qc.ca. Vous allez au bas de la page principale et vous pouvez inscrire votre nom, votre courriel pour recevoir ça directement dans votre boîte à courriel.
Et je voudrais vous poser une question, Isabelle. Quand vous dites que vous avez élargi, par exemple, qu'est-ce qui n'aurait pas été dans la route accessible et qui se retrouve maintenant dans le Québec pour tous? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ou un coup de cœur?
Oui, effectivement, il y a les bateaux où on peut faire une petite croisière pour aller voir les baleines.
Oui.
Ils sont cotés partiellement accessibles parce que, oui, on peut y aller avec un fauteuil roulant manuel. C'est un peu plus difficile avec un fauteuil roulant motorisé. Donc, on l'aurait pas mis dans la première version, dans la route accessible, parce que c'est pas un complètement accessible.
Non, c'est ça.
De la même façon, quand on va aller visiter les champs de lavande dans les Laurentides, ben à ce moment-là, il y a une partie de l'excursion ou en tout cas de la balade qu'on peut faire qui est en gravier, peut-être un peu moins compact. Donc, on n'aurait pas pu non plus avant le mettre. Donc, il y a des endroits comme ça qui se trouvent finalement être des beaux bijoux puis dont on faisait pas la promotion parce qu'ils étaient pas complètement accessibles, mais pourtant, parmi les 15% de la population qu'on dit vivant avec des limitations fonctionnelles, ça aurait pu répondre quand même aux besoins d'une grande partie de ceux-ci.
Bien sûr.
Faudrait pas oublier aussi que dans nos critères d'évaluation et dans nos publications, on indique aussi tout le temps quand il y a des services spécifiques pour les personnes avec une déficience visuelle ou une déficience auditive. Et à ce moment-là, il s'agit d'aller voir, une fois qu'on voit le pictogramme pour la personne avec la déficience visuelle, bien, on clique dessus, puis là, ça va nous dire, bien, ici, il y a des menus en braille, ou ici, vous avez une partie du musée que vous pouvez toucher aux pièces pour avoir une meilleure interprétation, ou parfois même, ça va être une visite plus détaillée pour les personnes non-voyantes. À ce moment-là, il va y avoir le pictogramme là, traditionnel avec la canne blanche pour démontrer que cet endroit-là a des services bien adaptés là, pour les personnes avec une déficience visuelle.
C'est une mine d'or, hein, finalement. Hein?
Ben moi, je trouve que c'est une
ressource. Oui.
On a de plus en plus de bons commentaires sur l'utilité, sur la facilité d'utilisation et la convivialité aussi, qu'on puisse voir vraiment. Là, on est habitué à des sites un peu drabes quand on parle d'accessibilité.
Oui.
Et là, on a vraiment été chercher des belles photos des endroits dont on parle. C'est vraiment des photos professionnelles et qui donne le goût d'aller à l'endroit, là. Non seulement pour l'accessibilité, mais pour la qualité de l'endroit.
Ben, écoutez, vraiment, Isabelle, merci à votre équipe et à vous-même pour avoir mis cela sur pied. Moi, je vous avoue que ça m'a beaucoup aidée aussi dans le cadre de cette émission Aime l'été, à pouvoir faire découvrir à tous ceux qui voulaient bouger un petit peu quels étaient ces endroits accessibles-là. Alors, c'est du très, très beau travail, ce Québec pour tous. Merci.
Je vais passer vos bons mots à toute l'équipe.
D'accord, Isabelle. Je vous souhaite une belle journée, puis allez Fédéreur.
Parfait, merci beaucoup.
Allez, salut, merci.
Au revoir.
Et là, c'est l'heure de M l'été qui se poursuit. C'est la deuxième demi-heure. Vous êtes en compagnie de Clotilde Seil et ses invités. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez qu'assez régulièrement, j'accueille Sarah Rouleau, qui est en communication et philanthropie à Inca Québec. Sarah, aujourd'hui, elle cède sa place à une toute jeune fille qui est stagiaire, elle-même en communication et philanthropie à Inca Québec. Elle s'appelle Cindy Kenny. Bonjour, Cindy.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir ici. Parlez-nous de vous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené là?
Moi, j'étudie en communication. Je fais un diplôme en relations publiques présentement à McGill.
Oui.
Et là, je fais un stage à l'INCA pour l'été.
D'accord.
Donc, c'est ça.
Et du coup, vous êtes venue nous parler du sujet du jour qui est le début de l'âge adulte. Évidemment, on parle toujours par rapport à la perte de vision.
Oui, exactement.
Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet-là?
Bien, en fait, étant moi-même au début de l'âge adulte, je suis consciente des défis que c'est pour les personnes voyantes. Donc, pour les personnes non-voyantes, c'est un peu similaire, sauf que parfois, les défis sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus grands à relever.
Oui. Alors, quels sont ces défis-là, chère Cindy, justement, pour les personnes qui vivent avec une perte de vision?
Bien, en fait, pour plusieurs, ça va être prendre son envol, devenir autonome, apprendre à cuisiner en appartement, déménager, laisser le nid familial. Il y a aussi faire des nouvelles rencontres. C'est parfois ce qu'on oublie. On oublie que pour une personne aveugle, ça peut être un petit peu plus difficile. Puis, pour plus tard, un peu devenir parent, les défis qui viennent avec devenir parent, l'autonomie.
Exactement. Et puis, on se demande toujours, finalement, qu'est-ce qui est le mieux que les enfants non-voyants aient été surprotégés ou plutôt en déficience de protection lors de leur enfance et de l'adolescence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, mais exactement. Parfois, ils sont un peu surprotégés. Mm-hmm. Donc, nous, on essaie de leur offrir des services, leur donner confiance en eux pour être sûr qu'ils soient capables de se débrouiller le plus possible puis de s'épanouir, en fait.
C'est ça. Alors, en quoi les rencontres sont-elles plus difficiles? Vous en parliez tantôt de ces rencontres. On se doute un petit peu de la réponse, mais j'aimerais entendre quand même une un peu plus spécialiste de la question. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à m'apporter à cela?
Ben en fait, quand tu ne vois pas ou quand tu as une vision limitée, c'est difficile de... Tu ne peux pas t'inspirer des autres. Donc, tout ce qui est lié avec la vision, si c'est des films, si c'est des petites attentions, des regards, comment tu touches la personne, eux, ils n'ont pas le pouvoir d'apprendre ça visuellement. Donc, ils doivent l'apprendre autrement. Également, faire des rencontres, ça peut être un petit peu plus difficile. Par exemple, les lieux de rencontre, si une personne te regarde, ben, quelqu'un doit te le dire, sinon bien tu ne le sauras pas. Donc, c'est pas mal ça.
Et puis, donc, vous avez monté à un cas des groupes de soutien. Hein?
Oui, on a monté cet été des groupes de soutien qui étaient animés par Damien. C'est 5 jeunes entre 17 et 26 ans qui ont participé.
OK. Jeunes adultes, donc.
Oui, exactement. Ces personnes-là avaient des groupes une fois semaine de soutien sur des enjeux, des sujets différents qu'ils voulaient aborder.
Sujets tabous parfois.
Mm-hmm. On a eu, par exemple, les relations, les premières relations amoureuses, les premières relations sexuelles. Un autre sujet était l'emploi.
Oui.
Donc,
oui. Ils ont réussi à s'exprimer, par exemple, sur les sujets un petit peu plus difficiles, comme les premières relations amoureuses.
Oui, mais je crois qu'en fait, c'est ça qui les a aidés d'être tous ensemble. Puis c'était un endroit où il n'y avait pas nécessairement de préjugés. C'était juste une plateforme pour s'exprimer. Ouais. Donc, je pense que ça les a beaucoup aidés à partager, puis à normaliser aussi le fait que faire les rencontres, ça peut être plus long, mais c'est normal. Puis il ne faut pas abandonner, il faut oser.
C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune qui hésiterait d'aller se joindre à un groupe comme ça?
Mais ce serait de lui dire qu'en fait, il y a seulement du positif. Ça va être plus d'outils, plus de choses que tu vas pouvoir... Il va être juste plus outillé pour pouvoir rencontrer des gens, avoir plus confiance en lui. Il va connaître l'histoire de d'autres jeunes aussi. Des fois, c'est un peu rassurant.
Oui, mais quel truc vous leur donneriez, là? Imaginez qu'un jeune vient de vous voir, là, maintenant, en disant, regarde, moi, j'ai besoin d'élargir mon cercle social. Je fais quoi, Cindy?
Est-ce qu'il leur a été proposé dans le groupe, c'était de parler de leurs passions, de leurs intérêts, puis de dire, en fait, quand tu te présentes, tu dois être capable de te présenter autrement, de parler d'autres choses que seulement ton handicap. Par exemple, on avait un jeune dans le groupe que lui, c'était la musique. Donc, à l'école, au cégep, il était dans son groupe de musique, il s'est fait des amis, il peut communiquer autrement, ils peuvent parler de d'autres choses. Puis là, ça fait un intérêt puis quelque chose de rassembleur.
Quoi d'autre aussi? Peut-être qu'en dehors de la musique, là, qu'est-ce qui les intéresse donc, les jeunes non-voyants comme ça? Cindy, est-ce que vous savez ça, vous? Non?
Qu'est-ce qui les intéresse? Mais c'est vraiment différent d'une personne à l'autre.
C'est ça.
Certains, ça va être la musique, d'autres, ça va être les sports, d'autres, ça peut être...
Le principal, c'est d'avoir quelque chose.
Exactement.
Hein, c'est de ne pas rester isolé, c'est de sortir, c'est de bouger, d'aller voir des groupes, d'aller parler avec d'autres personnes qui sont également non-voyantes. Hein, je pense que c'est ça qui est important.
Oui, mais c'est ça qui est important pour eux, puis également pour nous, peu importe que tu sois voyant ou pas, ça prend quelque chose qui va te mener à pousser tes limites un peu.
Pour finir, quel serait le message que vous aimeriez laisser aux jeunes adultes qui vivent avec une perte de vision?
L'important, c'est de bien s'entourer, de faire de nouvelles rencontres, d'oser, d'avoir confiance en nous, en eux, pour qu'ils puissent savoir que c'est peut-être un petit peu difficile par moment, c'est normal que ça prenne plus de temps, mais à la fin de la journée, tout le monde va trouver un petit peu son chemin. Puis d'utiliser aussi nos services qui sont là à leur disposition pour eux.
Oui, rappelons-les, ces services, donc des groupes de soutien.
Des groupes de soutien, il y a des services psychosociaux, il y a des services d'aide, il y a aussi de l'aiguillage. Donc si tu appelles là-bas et tu as un problème, donc ils vont t'orienter vers quel service ce serait pour toi. D'accord. Que ce soit par rapport à nous ou à l'extérieur, ils vont...
D'accord. On rejoint comment? Québec par Inca.ca, j'imagine, INCA.
Exactement.
INCA.ca. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi, peut-être? Ici, j'en ai un, en tout cas, mais oui. Non, ça, je pense que c'est plutôt le vôtre, hein, Cindy.
Le numéro de téléphone, c'est 514-934-4622.
D'accord. À partir de là, vous serez aiguillé là où vous en aurez besoin finalement.
Exactement.
Eh bien, bravo Cindy. Ben, ça, voilà, c'est passé. Ça s'est bien passé pour une première. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là et puis bonne chance dans vos études et bonne fin d'été à INCA. Alors.
Merci beaucoup.
De
au
rien.
Revoir.
Au revoir.
C'est comme si c'était hier. Comme si l'endroit faisait l'envers. Comme si les images s'arrêtaient. Et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain. Comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait. Que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment. Comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera était. Et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini. Comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves souvenaient pas. Et que le réveil ne sonnait pas. Comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous des doigts, et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était l'éternité. Comme si le semblant faisait le vrai. Si c'était le néant, comme si les âmes parlaient au vent, comme si la mer dans une cage, et que l'on se fondait dans les nuages. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite. Le temps passe. passons pas trop vite.
Voilà, vous êtes toujours sur Canal M et c'est l'émission Aime l'été qui se poursuit. Je retrouve aujourd'hui avec grand plaisir en studio notre chroniqueur Franck Bouchard. Bonjour Franck.
Bonjour.
Les vacances se passent bien?
Oui, ça passe vite. Pas ça beaucoup de vacances cet été.
Bon, j'allais vous dire, vous avez bonne mine. Alors, non, alors ça n'a rien à voir, c'est la lumière rouge au centre qui fait comme si on était tous bronzés.
Mais... Je reviens d'une toute petite semaine. Alors,
c'est vrai?
Oui, oui.
Alors,
oh,
ben,
c'est
quand même. Bon, ben, quand ça, même. C'est sympa. Franck, aujourd'hui, vous nous parlez d'un organisme assez épatant.
Oui, effectivement. L'idée de vous parler de cet organisme-là qui s'appelle Zèbre Rouge, qui est situé à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, m'est venue à la lecture d'un article récent dans la presse où on faisait état d'un besoin de personnel pour réparer les vélos. Le vélo est de plus en plus la mode. Il a besoin de mécaniciens pour réparer ces vélos-là. Et justement, Zèbre Rouge, c'est un organisme qui travaille depuis déjà quelques années à réparer, recycler des vélos et surtout à donner la chance, l'opportunité d'offrir des activités de travail à des gens, à des personnes en situation de handicap, plus particulièrement des gens qui ont des problématiques assez importantes de santé mentale. Donc, c'est un peu le prétexte de l'article, mais
venu à
l'idée, ah ben, ça serait bien de parler de cet organisme-là que je connaissais, avec qui j'ai déjà eu affaire dans le passé.
D'accord.
Et c'est là que c'est venu l'idée. Donc, Zèbre Rouge, effectivement, existe depuis déjà un peu plus de 10 ans, est actif. C'est l'idée, c'était les proches de personnes qui vivaient des problématiques de santé mentale assez importantes, schizophrénie, etc., des choses comme ça, qui étaient inactives, isolées, qui étaient donc en manque un peu d'activité. Mm-hmm. Et ces proches-là ont dit, ben, ça serait bien d'essayer de leur offrir quelque chose pour les sortir sortir de chez eux, de leur
bien
offrir
sûr.
des possibilités de devenir actives. Et l'organisme est né comme ça. Pourquoi l'idée du vélo aussi?
J'allais dire pourquoi l'idée du Zèbre Rouge? Parce que...
Zèbre Rouge, écoutez, petite anecdote, effectivement, pourquoi ce nom-là? C'est une personne, effectivement, qui avait une problématique de santé mentale, la schizophrénie, et qui dessinait aussi et qui avait dessiné un zèbre rouge. Et pourquoi les gens autour de lui, pourquoi tu dessines un zèbre rouge? Il dit, ben, c'est un peu comme ça, je me vois. Il dit, les gens, c'est comme des zèbres, on est tous un peu semblables, mais moi, je me sens pas comme les autres. Je suis comme le zèbre rouge dans la gang des autres zèbres, des autres humains. Donc c'est un peu comme
histoire.
Ça que l'idée est venue. Les gens autour d'eux ont comme autour de cette personne-là, disent, hey, on voudrait reprendre cette idée-là de s'appeler zèbre rouge parce que voilà. Bon, donc fin de l'anecdote. Les proches ont voulu fonder ça, donner des activités de travail. Je cherchais quel type d'activité de travail serait potentiellement intéressante, mais aussi accessible aux personnes. Et l'idée est venue donc de travailler, de dire on va reprendre des vieux vélos, on va les recycler, on va former un peu les gens à travailler. Ça va leur permettre d'avoir une activité de travail. Une activité de travail qui était quand même aussi... correspondante aussi un peu à leur profil, à leurs besoins, c'est-à-dire que les gens qui, c'est pas nécessairement tout le temps facile de la stress de la compétition, de la production, tout ça, la gestion des médicaments, on n'est pas tout le temps en forme nécessairement,
oui,
tout ça.
Sûr.
Donc, c'était aussi de créer un environnement propice à ces personnes-là en prenant le prétexte de faire de la réparation de vélo. Mais c'est devenu, au fil des ans, quand même quelque chose d'assez important. Finalement, l'organisme a pris sa place dans le milieu de Vaudreuil-Dorion. Et au fil des ans comme ça, ils ont grossi. Il y a une couple d'années, ils ont même... Et c'est là que l'idée de la chronique nous est venue aujourd'hui. Besoin de formation. Ben, c'est parce que justement, il y a une couple d'années, ils avaient aussi ce besoin-là. Ils avaient mis de l'avant un projet avec la commission scolaire locale, un projet qui avait très bien fonctionné, qui avait même gagné un prix l'an dernier, un prix remis par le milieu entrepreneurial local. Et ils avaient gagné le prix pour l'initiative en économie sociale. Donc, on voit que c'est intéressant. Donc, ils ont été un peu précurseur, même si c'était une approche innovatrice pour la région, de dire on va développer, on va former, on va certifier les gens, on va leur permettre peut-être même d'aller travailler dans des boutiques
ou ailleurs.
Ils avaient aussi cette volonté-là. Donc c'est intéressant, en tout cas, cet organisme-là est quand même très intéressant par rapport à ça. Je sais que c'est pas le seul au Québec, évidemment, à faire
mais
je trouve ça fun d'en parler aujourd'hui.
Oui, parce qu'en plus, c'est dans cette région-là, une région où les gens se sentent souvent isolés. Parce que je lisais ça justement encore hier dans un journal, on disait, n'oublions pas que c'est en Montérégie, Parce que quand on pense Montérégie, on pense rarement à l'ouest de l'île, mais ils sont en Montérégie.
Effectivement. Hein?
Et donc, moi, je suis vraiment contente que vous arriviez. L'affaire de l'espèce de Bixi local.
Oui, ben, ils ont créé cette année, avec justement le concours de la ville de Vaudreuil-Dorion, ils sont associés avec l'organisme pour créer ce qu'ils appellent Vélocité, qui est une initiative justement de mettre à la disposition des citoyens de Vaudreuil, mais aussi des visiteurs, des touristes, des vélos. Des vélos gratuits même. Les gens font un petit dépôt et peuvent louer le vélo pour la journée, pour le week-end même. Donc, ils ont mis à la disposition des vélos un peu partout dans la ville, comme ça. Donc, c'est une initiative intéressante parce que c'est Zèbre Rouge qui s'occupe de, justement de tout louer les vélos, mm-hmm. les entretenir, les réparer, mm-hmm. etc. Mais pour Vaudreuil aussi, c'était une initiative de développer le transport actif, développer le développement durable, tout ça, encourager les gens à se véhiculer en vélo. Et bien, en même temps, Vaudreuil-Dorion, c'est une belle région. Il y a des pistes cyclables.
Absolument, c'est magnifique.
Donc, c'est aussi une invitation aussi aux touristes à dire, venez visiter notre région. En même temps, faites-le en vélo.
Bien sûr,
encouragez en même temps l'organisme.
Exactement, parce qu'en plus, on sait que ce sont des vélos qui sont bien entretenus, puisqu'ils sont entretenus Est-ce que vous savez, est-ce que c'est une grosse équipe, ça?
Ils sont une vingtaine de personnes. Donc, c'est parti tout modestement, mais ils sont maintenant une vingtaine d'employés, donc de travailleurs. Certains viennent quelques heures, d'autres, ils travaillent là tous les jours. Mais en même temps, ça a développé aussi un esprit de famille. Les gens, c'est un milieu de vie pour eux maintenant. Ils sortent de chez eux, ils retrouvent des gens, ça les rétablit aussi, c'est ça l'objectif. Au niveau, ça leur permet de retrouver une estime d'eux-mêmes, etc. Donc, c'est pas juste le travail de réparer des vélos,
non,
mais c'est tout
ça.
L'aspect social autour de ça qui est important pour les gens qui ont fondé Zèbre Rouge.
Pensez-vous qu'ils ont encore besoin de monde ou éventuellement?
Ils sont très dynamiques, les gens, voyez, avec l'association cette année avec la ville, ils ont toutes sortes de projets, ils veulent refaire encore des formations, ils aimeraient bien continuer là-dessus. Donc, c'est une équipe assez dynamique qui veulent continuer à grossir, en tout cas, certain. Donc, en tout cas, je trouvais le fun aujourd'hui de faire un petit coup de chapeau à cet organisme.
Bravo. Je vous en remercie beaucoup, Franck Bouchard, qui nous parlait de l'organisme Zèbre Rouge. Si on fait Zèbre Rouge sur Google,
on va trouver très facilement. Ça,
d'accord. Merci beaucoup, Franck Bouchard.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci, au plaisir. Bye.
Pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un joli bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un point, une bosse, une taille. crache, un goût, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tu te fonds. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tu te fonds.
L'adorable Stacy Kent qui reprenait les eaux de mars à l'instant sur les ondes de Canal M où vous écoutez Clotilde Say qui anime pour vous le magazine Aime l'été.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa, un solo de batterie, là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traite de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit go man, la java dit go home. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java les mains pour le bas de son dos.
Hier, je vous ai quitté un petit peu précipitamment à cause de l'horloge et du coup, il y a une nouvelle en rafale que je n'ai pas eu le temps de vous délivrer comme je l'aurais voulu. Alors j'y reviens tout de suite. Il s'agit du parrainage civique Montréal qui permet, rappelons-le, des jumelages d'amitié entre personnes avec une déficience intellectuelle et citoyens bénévoles. Savez-vous qu'il existe 21 organismes de parrainage civique au Québec représentés par le RQPC? Eh bien, pour réaliser notre plan de développement, nous dit-on, nous recherchons actuellement des gens qui aimeraient s'impliquer bénévolement pour les postes suivants. Pour les sous-comités, cela représente environ 6 réunions annuelles, nous dit-on, d'une à deux heures par rencontre, et les sous-comités sont mandatés par le comité de financement et le comité de communication. Alors, une à deux personnes sont demandées pour le sous-comité pour les médias sociaux. Une personne pour le sous-comité pour les médias ruraux et une personne pour le sous-comité pour le financement et subventions. Ils sont également à la recherche d'une agence de relations publiques et ils recherchent aussi un photographe vidéaste. D'autre part, ils nous annoncent avoir un super plan de partenariat pour toute entreprise qui aimerait s'impliquer auprès d'une clientèle vivante avec une déficience intellectuelle. Alors, c'est une occasion unique de devenir ce qu'on appelle un porteur d'inclusion, un porteur d'évolution, un porteur d'égalité. Devenez, pourquoi pas, porteur du changement. Il suffit d'aller sur le site du RQPC. RQPC. Le rapport de consultation d'une possible ratification par le Canada du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies aux droits des personnes handicapées est maintenant disponible. Il suffit d'aller sur... je vais vous donner l'adresse, elle est un petit peu compliquée, remarquez bien. Je pense qu'il serait plus sage et plus simple que nous la mettions en ligne sur via notre site internet sous l'onglet Nouvelles, voilà. Alors, on nous dit que dans l'ensemble, les participants appuient la ratification par le Canada du protocole facultatif, soulignant que cette adhésion renforcera l'application de la Convention au Canada et protégera les droits des personnes handicapées. Marie-Anne Grenon, recherchiste à l'émission documentaire Sexplora sur les ondes d'Explora, la chaîne scientifique de Radio-Canada, recherche des participants aveugles. Dans le cadre de la troisième saison, ils ont un épisode entièrement consacré à la peau. En ce sens, ils souhaitent interviewer une personne aveugle, de naissance ou non, pour témoigner de l'importance du toucher et de la peau dans les relations amoureuses et sexuelles. Nous cherchons une personne dégourdie, verbomoteur, capable d'aborder le sujet sans gêne d'un point de vue personnel. Le temps requis, une heure d'entrevue avec l'animatrice Lily Boisvert. Le tournage va s'effectuer là, ce mois-ci, au mois d'août. Et l'entrevue totalisera à peu près plus ou moins 4 minutes dans un épisode, lui qui en comptera 23. Si vous êtes intéressé, contactez Marie-Anne Grenon, comme ça se prononce, @gmail.com. Je vous donne rendez-vous, à bientôt, bonne journée.